Bonsoir, bienvenue sur Vagabondage, l'émission qui vagabonde du côté de la littérature, mais pas que. Pour ce soir, donc Bertrand au micro, entouré de Sylvie.
Bonsoir.
Et de Sandra,
bonsoir.
Notre petit trio. Et en ce mois de janvier 2020, on avait envie de parler de bleu. De cette fameuse couleur bleue, de cet univers bleu. Voilà. Alors, pour certains, vous allez tout de suite partir du côté de la grande bleue. D'autres, voilà. Le bleu se prête pas mal aux rêves, ou à l'évasion. Donc, voilà. C'est parti. Vagabondage, Radio Calade, 100.9, que vous pouvez retrouver sur www.radio-calade.fr en podcast. Bonne émission. Alors, Sylvie, on commence par toi. On a l'habitude de tes chroniques. Chroniques parfois humoristiques, parfois coquines, mais surtout chroniques en bleu.
Chroniques en bleu. Donc, je vais vous parler du mot bleu. Ce mot tire son origine de l'ancien français blef ou blève, dérivé du mot blanc. Avant le Moyen-Âge, le bleu n'existait pas. Pas plus que les schtroumpfs ou le curaçao d'ailleurs. Cette couleur était décrite comme une variété de noir ou de vert, ou tout bonnement comme une nuance de blanc. Il faut savoir qu'une surface légèrement bleutée est perçue comme plus blanche qu'une surface tout juste blanche. D'où les petits grains de lessive bleue qui lavent votre linge plus blanc que blanc. Bluffant, non ? Sacre bleu. Alors, Monsieur Bleu, qui ne s'appelle pas toujours Jean, n'en déplaise à Giono, n'est pas ce que l'on peut appeler un joyeux drille. Il souffle le froid plutôt que le chaud, demandez à votre robinet. Il est placide, limite apathique ou même carrément angoissant, ventre bleu. Selon Kandinsky, le bleu développe très profondément l'élément du calme. Goethe écrit, lui, que la couleur bleue anime moins qu'elle n'inquiète. N'appelait-on pas autrefois le délirium très mince le démon bleu ? Bleu, c'est aussi la couleur préférée des seniors, en particulier ceux qui aiment le roquefort. Avant d'être cher aux poètes, aux créateurs du blue jean ou aux amateurs de viande saignante, avant d'être de Gex ou de Bresse, cher aux gens de lin, le bleu fut cher tout court. Obtenu par le broyage d'une pierre semi-précieuse, le lapis-lazuli, littéralement pierre bleue, le bleu outre-mer fut ensuite concurrencé par le pigment bleu de l'azurite, un carbonate naturel de cuivre que l'on trouve non loin d'ici, à Chessy-les-Mines, et dans le Var, au Pradé, dans la mine de Cap-Garonne, juste au-dessus de la Grande Bleue. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Lorsqu'il est casque ou uniforme, le bleu est censé représenter la paix. Lorsqu'il est taché, il appartient à une ouvrière ou à un travailleur manuel. Bref, à ceux qui bossent longtemps et beaucoup, le plus souvent pour des clous. Car comme l'affirmait Coluche, le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. Et quand un col bleu se fait virer comme un malpropre à 50 balais par un col blanc condescendant, ses enfants se demandent, à l'instar de Renaud, mais qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, notre vieux ? Actuellement, dans certaines cultures, dont la nôtre, le bleu symbolise le masculin, avec le fameux bleu layette, destiné aux mâles héritiers, opposé au rose, ce rouge délavé jugé plus romantique qu'on attribue aux filles. Un parfait stéréotype sexuel et sexiste. Mais quand on connaît l'histoire des bas bleus, on ne s'étonne plus de rien. Les bas bleus, ce sont ces femmes lettrées qui tenaient salon au XIXe siècle, dont les conservateurs et les réactionnaires de l'époque se sont empressés de railler les prétentions littéraires, les traitant de femmes pédantes sans talent, de précieuses ridicules, d'insupportables raseuses, et j'en passe. Baudelaire himself les qualifia de femmes dangereuses, de véritables hommes manqués. Sans doute, lui et tous ses autres barbes bleues mal inspirées, préférant avoir affaire à des fleurs bleues ou à des cordons bleus plutôt qu'à des femmes intelligentes susceptibles de leur ravir la vedette, aurait-il mérité qu'une escouade de bas bleus ne les malmène quelque peu ? Dussent-ils pâtir de quelques bleus bien douloureux, morbleu ? Et oui, j'ai du bleu à l'âme, la misogynie ne date pas d'hier, pas le sang bleu. J'ai la vie qui me pique les yeux, j'ai mon petit cœur qui est tout bleu. Novice, le bleu est bite. petit, il fait un télégramme. Au foot, il forme une équipe. Associé au gaz, il l'est aussi au Viagra. Gaz et petites pilules bleues pouvant générer, chacun à leur façon, une explosion. Posséder une carte bleue n'a jamais empêché quiconque d'être dans le rouge. Quand le bleu se fait fleur, myosotis ou jacinthe, quand il papillonne, qu'il est gai ou mésange, il se veut romantique. Quand il déteint sur la peau des Touaregs, ces hommes bleus qu'on dit abandonnés de Dieu, mais qui s'appellent entre eux « hommes libres », exaltant les fantasmes de voyageuses en mal d'exotisme, le bleu se fait licencieux. Quand il accueille la sublime Brookshill dans son lagon paradisiaque, il donne envie de chanter les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux, de s'évader sur une bicyclette bleue vers une maison bleue pour y danser la java bleue. Mais qu'il nous plonge en apnée dans le grand bleu, il nous fait aussitôt froid dans le dos et nous bleuit la peau. La terre est bleue comme une orange, écrivait Éluard, tandis que Rimbaud vantait le haut bleu, l'oméga rayon violet de ses yeux. C'est beau à en bleurer, non ?
Très très réussi.
Merci Sylvie. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mots bleus.
C'est vrai. C'est un peu bleu.
Mais bon voilà. Merci à toi pour à la fois les jeux de mots, l'humour, le talent d'écrivain. Donc vous avez compris qu'on parle de bleu. Alors, pour ma part, j'aimerais, après cette chronique, évoquer quand même un peu ce mot bleu dans l'histoire, dans l'évolution qu'a connue cette couleur très particulière. Alors, je vais emprunter les mots, bleu ou pas, de Michel Pastoureau. Donc, Michel Pastoureau est un historien qui, à la base, est spécialiste d'héraldique. Et qui, depuis quelques années, a entrepris un travail magnifique, qui est la couleur et l'histoire de différentes couleurs. Alors, à ce jour, il aura fait l'histoire du rouge, du noir, du vert, du bleu, et très récemment, du jaune. Et c'est toujours passionnant parce que on part dans quelque chose dont il n'imaginait pas, qu'il pouvait y avoir effectivement une histoire quand on parle de couleurs. Alors ce fameux bleu, en fait on s'aperçoit, aujourd'hui le bleu est partout, c'est la couleur préférée en Occident, et on s'aperçoit que dans l'histoire c'est une couleur qui a été négligée, voire presque a été inexistante. Pendant très très longtemps, de ce bleu qu'on a toujours considéré comme une couleur froide était vraiment au second plan, pour pas dire au troisième, et on avait, on va dire classiquement, le panel de rouge, blanc, noir, qui était très symbolique à différents niveaux. Alors si on remonte, on revient à l'Antiquité. Et l'Antiquité nous montre que le bleu pouvait être très négligé, inexistant, et parfois quand même commencer à apparaître. Déjà, ce bleu vient d'Orient, c'est-à-dire que c'est vraiment en Orient qu'on va commencer à trouver, alors l'indigo bien sûr, c'est intéressant parce que l'indigo est une plante qu'on va broyer, etc., et qui arrivait en Occident sous forme de compacts, d'éléments compacts, et en Occident il était perçu que c'était une pierre, donc il a fallu attendre très longtemps pour se rendre compte que c'était une plante. Et il y a eu bien sûr le lapis-lazuli, qui est une pierre semi-précieuse et dont les foyers sont plutôt du côté de l'Iran ou de l'Afghanistan. Donc ce bleu vient de cet Orient, comme beaucoup, beaucoup de choses. Alors quand on regarde bien, du côté des Égyptiens, le bleu est une couleur bénéfique. C'est-à-dire que c'est une couleur qui va repousser les forces du mal, c'est une couleur qui prépare à la mort, et on sait que le rite de passage dans la mort pour les Égyptiens est très important. Donc plutôt issu d'une vision positive, peu utilisée, mais positive. Du côté des Grecs, elle est presque totalement inexistante. On la voit nulle part, elle n'est pas du tout valorisée. C'est vraiment une couleur froide qui n'a aucun attribut particulier. Chez les Romains, c'est un petit peu le même cas de figure. Chez les Romains, en fait, c'est une couleur négligée et surtout pire, c'est une couleur dont on se méfie. Aujourd'hui, avoir les yeux bleus, c'est un peu la classe, quoi. C'est vraiment un canon de beauté.
À l'époque, pour les hommes, c'était très mal vu.
C'était très mal vu. Effectivement, c'était quelqu'un qui, il avait pas de bol, un peu comme les roux, les rousses. Et pour une femme, avoir les yeux bleus ou porter du bleu, c'était effectivement signe d'une femme de peu de vertu.
Voilà.
Ouais. Et quand on continue, on s'aperçoit que ça va se poursuivre dans le Haut Moyen-Âge. Le Haut Moyen-Âge, il n'y a aucun dignitaire, il n'y a aucun aristocrate, il n'y a aucun prélat qui porte le bleu. C'est souvent le bleu, à la rigueur, pour des gens de basse condition, entre guillemets, qui vont parfois porter du bleu. Voilà. Et on pourrait même continuer encore dans le Moyen-Âge, parce qu'au XIIe, on s'aperçoit que le bleu est très peu présent, de nouveau. C'est quelque chose que l'on ne voit pas dans la société, dans l'aristocratie, et on est toujours avec nos fameuses trois couleurs, puisque le blanc, c'est la pureté. Le noir, c'est l'abstinence, c'est la pénitence, qui est quand même très présente à des moments de l'année dans la population. Et puis le rouge, c'est à la fois la religion, parce que c'est le sacrifice de Dieu, c'est le sang christique, c'est la passion également. Voilà.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs, Bertrand, c'est qu'au niveau du lexique, le bleu dans les langues romanes n'existe pas. C'est-à-dire ensuite, il est emprunté à l'allemand, blau, ou à l'arabe. Il n'existe même pas, ce bleu n'est pas intéressant, voire discrédité, comme tu disais.
C'est ça qui est assez fascinant de se dire que, en fait, le bleu ne faisait pas partie de la vie quotidienne. Alors, là où il va y avoir un vrai changement, qu'on ne s'explique pas toujours, c'est entre le XIIe et le XIIIe siècle, où là, on va commencer à avoir un intérêt, voire très vite une passion pour le bleu. C'est-à-dire que le bleu secondaire va passer au premier plan. On commence à l'apercevoir dans des vitraux d'église.
Un peu en lien avec la religion, du coup, avec la Vierge et
avec le culte
la représentation
Maria.
De la lumière divine. On se saisit du bleu pour le représenter.
Tout à fait. C'est vrai qu'on doit beaucoup au culte marial, où d'abord c'était en blanc et là ça devient en bleu. Si vous avez eu l'occasion de visiter la Sainte-Chapelle à Paris, vraiment les vitraux sont une dominante de bleu assez extraordinaire. Et donc on a comme ça cette montée en puissance du bleu, de l'azur. Ça se voit aussi dans l'héraldique, où on s'aperçoit que de plus en plus les blasons ont du bleu. Par exemple, fin 13e, le roi capétien, l'un des seuls rois effectivement en Occident, a effectivement un écu à fond bleu, ce qui ne s'était encore jamais vu.
Et il paraît que c'est nos rois de France qui ont en premier adopté le bleu.
Voilà, tout à fait. Avant
les autres.
D'autres royaumes. Voilà, Saint-Louis, par exemple, va commencer, donc on est au XIIIe siècle, commencer à se vêtir en bleu. Et ainsi, XIIIe, XIVe siècle, le bleu devient une couleur centrale, portée par l'aristocratie, portée par les prélats. Je trouve assez fascinant de voir ce changement qu'on a quand même un peu du mal à expliquer, aussi brutal.
Et du coup, les teinturiers doivent faire des progrès, progressent en nuances de bleu aussi,
tout
du
à
coup,
fait.
Vu que c'est demandé.
Voilà, on peut penser que c'est aussi par rapport au progrès des teinturiers que ce bleu se répand aussi rapidement. Même si le XVe siècle est pour plus la grande couleur du noir, le bleu fait son chemin. Et c'est en particulier le XVIe, XVIIe siècle que le bleu va triompher. Et au XVIIIe siècle,
Sur le XVIe, tu oublies un truc assez étonnant, c'est que ça devient, on moralise la couleur bleue. Enfin, on moralise les couleurs et la couleur bleue. Et la couleur bleue devient une couleur correcte, pour l'ensemble de la population, donc courue, en fait, à partir de la réforme protestante.
Donc
ça devient une couleur bien, de gens bien, correctes, en fait.
Et puis c'est vrai que cette couleur... Ouais. qui était un peu froide, voire même qui, avec les teintures qu'on n'arrivait pas forcément à bien faire, était même un peu sale, une sorte de bleu sale. Mmh. Et progressivement, ça devient de jolis bleus, des bleus profonds, des bleus lumineux, qu'effectivement, on n'avait pas auparavant. Et au 18e, il y a un vrai triomphe du bleu. Hein, par exemple, quand on prend Goethe et le jeune Werther, voilà,
le romantisme,
il s'habille en bleu, il a un frac qui est bleu, et c'est une époque où en Allemagne, tout le monde du coup veut copier le jeune Werther avec une culotte jaune et un frac bleu. Voilà, il y a une vraie
et le bleu prusse. Et résultat
coup,
d'un,
fait,
d'un du hasard un peu.
Oui, tout à fait. Et ce qui fait que la Révolution française, le bleu est très présent, bleu, blanc, rouge quand même, voilà. Hein, même si le
avec une importance du bleu supérieur, puisque j'ai appris que dans le drapeau, notre drapeau, le bleu prend un peu plus de place, et dans le pliage orthodoxe, si je puis dire, du drapeau, le bleu seul doit apparaître. Donc c'est un petit détail encore l'importance qu'a pris le bleu, au fil de l'histoire.
Voire même, dans le bleu, blanc, rouge, voilà, c'est lui qui est en premier. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. La Révolution américaine avait un peu initié ça juste auparavant, quelques années auparavant. Et c'est quelque chose au 19e siècle qu'on va trouver aussi bien, par exemple, chez les militaires.
Oui.
Où la couleur bleue.
On passe du noir au bleu.
Voilà.
Un peu moins sévère, quand même.
Ouais. Même si le rouge sera quand même encore parfois dominant. Ouais. Et après, politiquement. Le bleu va plutôt être une couleur de la droite.
Avant d'avoir été une couleur progressiste avec la Révolution.
Tout à fait. Et les républicains du 19e siècle.
Il évolue vers le conservatisme. Oui.
Voilà. Et donc, quand on arrive au 20e siècle. Eh ben, c'est vraiment la couleur préférée en Occident. C'est la couleur au niveau du vêtement. On va pas revenir sur le jean, le blue jean. Et aujourd'hui, tout le monde porte toute la journée des jeans. Voilà, c'est ce fameux bleu.
Et alors, est-ce que vous savez, Sylvie, est-ce que tu sais le pourcentage de goût pour le bleu en Europe occidentale? Moi, j'ai été bluffée par les chiffres. 45 à 50% en fonction des pays d'Europe occidentale qui ont une préférence pour le bleu. Le bleu n'ayant jamais été cité depuis la fin du 19e comme couleur détestée. Donc elle ne fait pas du tout partie des couleurs détestées. Elle est en tête à 45-50%. Le vert étant en deuxième position avec 17-18 seulement. Les autres qui se déclinent derrière.
C'est
l'unanimité pour le bleu qui est
Mais tout à l'heure dans ma chronique, je disais que c'était la couleur préférée des vieux parce qu'a priori, elle est moins aimée des jeunes en France en tout cas. Je ne sais pas en Europe. Mais
c'est un autre bleu. Le jean par exemple est bleu.
Oui, mais c'est moins la couleur qu'ils citent maintenant. Actuellement, les jeunes citent beaucoup moins le bleu qu'il y a quelques années, il paraît.
Et puis c'est la couleur de la paix.
Elle est en perte de vitesse.
Quand on voit les Nations Unies, les
casques bleus, tous les organismes internationaux, l'Europe,
tout à fait, on est bleu. Donc le bleu a triomphé. Et je vous propose, après cette petite minute qui a été plus qu'une minute historique, de partir avec Maxime Le Forestier, San Francisco. À la Maison Bleue, bien sûr.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tom à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi.
Vagabondage sur 100.9, vagabondage donc le mardi, que vous pouvez réécouter le samedi à 14h, et bien évidemment en podcast sur www.radio-calade.fr. Et depuis le début, nous sommes plongés dans la grande bleue, dans le bleu clin ou pas. Et là, avec Sandra, on avait, surtout Sandra avait envie de nous emmener du côté du cinéma. Et peut-être de commencer avec quelque chose de redoutable, un quiz.
Exactement, ça m'amusait beaucoup de vous questionner autour des titres de films.
Sylvie, tu es prête ?
Bien sûr. Comprennent la couleur bleue ou des films pour lesquels la couleur bleue est importante.
D'accord.
Alors, c'est parti.
Tadam.
Vous restez muet, c'est ça ?
Ah, mais il faut qu'on t'en dise.
Ah, oui, il faut que vous m'en disiez.
Bon, bah, le grand bleu.
Oui.
Ah, mais là, tu veux quoi ? 37,2 le matin.
Ouais.
Ah
non, si, parce que 37,2 le matin, c'est juste parce qu'en anglais, c'était Betty Blue.
Ah, donc, oui, voilà, il me semblait.
Le mot bleu était dedans.
D'accord.
Blue Jasmine.
Ouais,
ah,
super,
oui.
Woody Allen.
Ouais. Tu peux nous donner des indices
Je sais pas. Ou alors des films dans lesquels la couleur bleue a une certaine importance.
Comme ça.
Ah ouais, donc je vais être obligée.
Il y a pas un truc qui s'appelle Trois couleurs, un truc comme ça.
Ah oui, très bien. Voilà, du metteur en scène polonais, Trois couleurs. Il a fait les trois couleurs d'ailleurs.
Le compagnon de
le premier de la trilogie.
Là, ouais.
Et ensuite, alors c'est pas lui, c'est pas Zulawski, un autre polonais qui a fait effectivement Trois couleurs, bleu, blanc et rouge.
Ah oui, tout à fait.
Bien, Sylvie, ouais, qui disait qu'elle ne savait pas, mais tout à fait.
Sèche maintenant.
Ouais. Alors après, il y a dans ceux que j'ai relevés, parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup avec le mot bleu. On a aussi La Chambre bleue, film de Mathieu Amalric d'après Georges Simenon.
Ah, puis comment la bicyclette bleue.
Oui, l'adaptation du roman, tout à fait, avec Laetitia Casta. On a Le Bleu des villes de Stéphane Brisé avec Mathilde Seigné.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? On a Les mots bleus d'Alain Corneau avec Sylvie Testu et Sergi Lopez. Et puis on a un film aussi très radical que j'ai découvert, que je ne connaissais pas contrairement aux autres. Il y a Blue Velvet aussi, de David Lynch.
Tout à fait,
voilà,
Blue
qui
Velvet,
date un petit peu, mais voilà. Et un film très radical qui s'appelle Blue, d'un réalisateur anglais, Derek Jarman, qui est un film en fait qui ne montre à l'écran que la couleur bleue, avec des extraits musicaux, des voix, voilà, un film que ce metteur en scène a fait juste avant de mourir, pour lesquels d'ailleurs on a un petit extrait musical que Mathieu va nous passer, je crois.
« patient youths of the sun, burning with many colors. Flick combs through hair in bathroom mirrors.
Bizarre, bizarre.
Ah oui, oui. Un choix très radical. Imaginez-vous pendant 55 minutes devant un écran bleu avec simplement des voix, des extraits musicaux comme celui-ci. Voilà, donc le film le plus radical sur le bleu. Et alors, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand, en fait, on retrouve dans les films le symbolisme de la couleur, et donc on retrouve le registre du romantisme dans les films, notamment avec un film que vous avez peut-être vu de Jane Campion, Bright Star, l'histoire d'un jeune poète disparu prématurément, avec une histoire d'amour typiquement romantique. Bien sûr, vous avez donc cité 37 de le matin, l'histoire hautement romantique et tragique. Voilà, la chambre bleue de Mathieu Amalric désigne une chambre de couleur bleue dans laquelle deux amants se retrouvent, et ça va très très mal finir parce que dans cette histoire, Georges Simenon, évidemment, il y a des meurtres. Voilà, on a...
Moi, je me rappelle du Grand Bleu.
Ah oui, alors le Grand Bleu, là, ça fait plutôt référence aux éléments.
Ouais.
On retrouve le bleu apaisant, évidemment. Mmh. Vous vous souvenez de cette belle scène avec les plongées de Jean-Marc Barr dans sa belle combinaison bleue, pénétrant dans les profondeurs abyssales.
Surtout, je me rappelle des couleurs... Avec cette couleur de surface, du bleu de surface,
oui.
Et puis ce bleu profond.
Abyssal, oui, qui devient de plus en plus.
Qui tourne au noir.
Foncé,
presque.
Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Donc là,
il devient inquiétant quand même.
Oui,
ce bleu.
Oui.
Et la fin est carrément inquiétante, puisqu'il reste dans ces abysses. Donc, et on retrouve aussi le bleu en tant que couleur du diable, des dangers, de la peur. Tu parlais de peur bleue tout à l'heure, de l'étrange, de la nuit, avec un film, évidemment, dans ce registre qui est absolument exemplaire, c'est Nosferatu. Avec Klaus Kinski. Je ne sais pas si vous vous souvenez
non,
l'arrivée du jeune homme dans le château du vampire joué par Klaus Kinski, le prince Dracula, avec ses bleus nuits, ses différentes nuances de bleu, très très effrayant. Et puis il y a le bleu aussi dans le registre du fantastique, de l'onirique, du surnaturel, et donc très utilisé dans la science-fiction. Et notamment, par exemple, dans Avatar, avec ces petits personnages bleus,
qui sont bleus, tout à fait.
Dont les terriens envahissent la planète pour récupérer un minerai précieux, eux étant plutôt un peuple pacifique. Hein, on retrouve le bleu, des casques bleus.
Et en science-fiction, il y a aussi les Schtroumpfs, que j'ai cités tout à l'heure.
Film d'animation BD.
Et la Schtroumpfette.
Voilà. Alors ça, c'est vrai aussi, les auteurs de BD ont une utilisation du bleu que certains ne considèrent pas du tout comme une couleur froide. Par exemple, Enki Bilal, qui dans ses BD de science-fiction, utilise
froid, quand même.
Beaucoup la couleur bleue. Et oui, mais pour lui, paraît-il, ça n'est pas une couleur froide. Donc,
non, c'est ce qui est extraordinaire avec ce bleu. Ouais,
Et puis alors après, on retrouve aussi le bleu, en tout cas dans les films, dans le registre de la dépression, du deuil, de la mort, de la psyché aussi. Sylvie citait tout à l'heure Trois couleurs bleues. Dans l'histoire de Trois couleurs bleues, c'est une femme qui perd brutalement son mari et sa petite fille, et donc c'est l'histoire de sa reconstruction avec le symbolisme du bleu qu'on retrouve dans ce joli lustre avec ses pampilles qu'elle récupère de la chambre de sa fille morte et qu'elle garde toujours avec elle, et tous ces reflets bleus très esthétisants sur son visage, parce que c'est vrai que le bleu est aussi beaucoup utilisé en tant que couleur esthétique autour du thème du romantisme, etc. Et puis Blue Jasmine, que tu citais aussi, Sylvie, l'histoire d'une femme très très dépressive qui perd sa condition
elle qui se retrouve chez sa sœur, non, c'est ça,
exactement, avec son mari qui est jeté en prison, et elle se retrouve sans le sou, très très dépressive. Voilà, donc on retrouve un petit peu tous ces registres. Alors, un dernier registre dans le genre un peu inquiétant, enfer, danger, peur, que j'ai noté aussi. C'est une couleur qui est aussi attribuée par certains cinéastes à la femme un peu tentatrice, perverse, pécheresse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de revoir des images, parce qu'il est ressorti de L'Enfer de Henri-Georges Clouzot, film qui n'a jamais été fini parce que le film s'est très très mal passé entre le cinéaste et notamment Romy Schneider, qui montre Romy Schneider avec des lumières bleues, un maquillage bleu, les lèvres peintes en bleu, et que le cinéaste montre vraiment comme la femme tentatrice dont, par laquelle il est attiré, etc.
Et ça fait écho à ce que Bertrand disait tout à l'heure, à une époque, la femme qui avait les yeux bleus était considérée comme une femme de petite vertu.
Voilà. Et le grand film L'Ange Bleu, avec Marlène Dietrich, qui est aussi cette femme tentatrice qui va mener ce bon professeur à sa perdition. Voilà, donc c'est un petit peu...
C'est intéressant de voir comment, en fait, là, dans tout ce que tu dis, en fait, le bleu, donc je trouve, nous, on a plutôt une vision positive aujourd'hui. Oui. C'est le bleu des vacances, c'est le bleu du ciel, etc. Qui a aussi la part sombre du bleu.
Exactement. Dont j'ai trouvé qu'on l'a retrouvé finalement beaucoup usité dans les films, et de cette façon-là, plutôt dans son côté un peu sombre.
Mais dans la musique aussi, hein, parce que le bleu, c'est le blues. Oui, c'est quand même un côté un peu sombre.
Le jazz, le blues, tout à fait. Et le dernier usage dans le cinéma, c'est évidemment dans les films historiques. Et par exemple, là, j'ai revu quelques images de Sade, où on voit Sade avec son épouse rencontrant Robespierre, avec grand usage et allusion à la couleur bleue, en lien évidemment avec la couleur républicaine, les habits bleus, la femme de Sade est en bleu, il fait aussi allusion au bleuet, la couleur de cette époque-là, la fleur.
Ce qu'est la royauté, hein, quand on regarde les grands manteaux de sacre des rois et autres, c'est bleu et voilà, quand on regarde les rois maudits, par exemple, voilà, le bleu est très présent.
En sachant que pour la royauté, il est passé au blanc, puisque la nation a gardé le bleu, le couleur des royalistes est devenu le blanc.
Mais du coup, beaucoup plus tard.
Donc c'est très curieux de voir
très riche.
L'usage du bleu au cinéma, qui est aussi une couleur pour le coup très esthétique. La dernière petite référence que j'ai, que je trouve intéressante, c'est celle du cinéaste anglais Peter Greenaway, qui a fait de très beaux films, en tout cas selon moi. Mais dans un de ses films, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, en fait, sur l'affiche elle-même, les couleurs sont utilisées. Et donc le vert est attribué au cuisinier, le rouge au voleur, le blanc à la femme et le bleu à l'amant. Donc on retrouve la passion. Et dans tout le film, il y a comme une espèce de voile, de filtre qui est posé sur les images en fonction des moments du film, tantôt le rouge, tantôt le bleu, etc. On retrouve un peu l'affiche. Et donc là, c'est l'usage du bleu dans le cinéma, dans une version très esthétisante, pour son esthétique, où on retrouve tout de Benex. Hein. Benex a beaucoup utilisé la couleur bleue. On parlait de 37.2 dans Diva. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, dans cette espèce de grand loft où on voit Boringer allongé dans la piscine, avec effectivement une dominante bleue, comme une espèce de filtre bleu très, très beau. Voilà, donc il y a aussi un usage très, très, très esthétique dans le cinquième élément aussi. On retrouve la diva bleue qui contient les pierres qui, une fois réunies, vont rapporter la paix et l'amour dans le monde. Donc on retrouve bleu, amour, romantisme, enfin voilà.
Merci pour toutes ces références
cinématographiques.
Est-ce que toi, pour finir sur ces références cinématographiques, Sylvie, qui est une fille de la mer, qui passe une partie de l'année au bord de la mer, est-ce que tu as, pour finir, des films, tu as des souvenirs de films où la mer est présente, mais cette mère de l'été, cette mère des vacances, et non pas comme Sandra, ces mères, ou ce bleu qui est inquiétant, qui est...
Ah oui, que veux-tu, en tant que psychothérapeute, j'en viens toujours à la psyché, donc c'est déformation professionnelle.
Mais là, les noms de films qui me viennent sont un peu inquiétants, parce que bon, il y a le grand bleu que tu as cité dans la fin, est quand même
oui,
un petit peu noir, et puis l'année des méduses,
bon, voilà, bah, écoutez, où la mère je crois est présente. On ne va pas s'en tirer. Non, mais il y avait quoi c'était un été, l'été de Romer. C'était beau, cette mer, plus calme, plus légère. Bon, c'est Romer, hein, c'est pas non plus Nuplala. Mais voilà.
C'est vrai. Oui.
Ouais. Alors, pour continuer un petit peu dans ce côté un petit peu dur et autre, allons du côté de Giorgio, qui est un rappeur avec Bleu Noir. Giorgio connaissait peut-être, puisqu'il avait été invité au Festival des Nouvelles Voix en 2018. Alors, go!
Sont plus forts que ceux qui se brisent. Je l'ai appris avec l'âge, en hyperactivité. Que dans ma jungle urbaine, toutes nos écorces se cassent. Avancer de SOS en cri de guerre, grâce à mes cordes vocales ou de promesses en prière. Font de moi un homme sable. Passer de la haine à l'amour, puis de l'amour à la haine. Y'a toute une morale à perdre, tout un combat à refaire. Comme un été trop, j'étouffe, comme un métro rempli. Comme un accord commande, ma conscience est plus un crime commis. Personne n'imagine à quel point c'est dur d'élever un père qui part. Parole d'enfant d'un divorce interminable. Je revois encore des coups qui fusent avec mon frère. Joue aux arbitres, je compte y passer mes prochaines années. Mes durs parler d'avenir. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur c'est bleu noir, c'est bleu noir. Comme une tache d'encre sur ma feuille blanche. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur c'est bleu noir, c'est bleu noir. HLM de province, les foyers de Paname, les squats de banlieue, les requins qui viennent du rock m'attendent des bombes, personne ne peut mettre sans eux. Je vois mon père qui joue au dé, des mecs au ballon. J'ai perdu mon innocence avant de connaître la balle aux prisonniers. J'ai fait mes devoirs, éclairé par des bougies. J'ai promis de marquer l'histoire, je vais pas me faire baiser par des groupies. À Maxo, au terrain vague, on traînait tard la night. Je rappais mes paragraphes, d'autres pensaient à faire de la maille. Chacun sa route, chacun ses doutes, à penser tout. On s'appelle pas quand tout va bien, mais je sais que t'es là. C'est un quartier voisin, fais en découdre. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur c'est bleu noir comme une tache d'encre sur ma feuille blanche. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur c'est bleu noir. Va me faire des sons. J'suis devenu un homme à 15 ans, indépendant. J'ai déjà rêvé de femme de l'âge de ma mère. J'assume ma perversion. Mes gars, c'est pareil, on veut plus s'épargner. On se livre, on se fait mal. Moi, j'ai découvert l'amour dans une cage d'escalier. J'ai soif de victoire et à force de perdre. Plus proche de l'immigré dans les docks que de la belle famille près d'un port de pêche. Plus proche des mamans à la fenêtre que des francs-maçons loin des yeux près du cœur. Mon frère en centre de formation. Difficile de faire sa place, chacun son destin. Et pas d'autre choix que provoquer le changement et y faire face. Que personne, me considère comme un arrière. Connant au mien, j'ai multiplié les sacrifices. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur c'est bleu noir comme une tache d'encre sur ma feuille blanche. C'est plus que de la musique ou des textes. C'est ma vie, mes cauchemars, mes névroses, mes envies. En une couleur c'est bleu noir
Radio Calade 100.9, vous êtes toujours avec Sylvie, Sandra et Bertrand au micro pour évoquer le bleu. Nous sommes partis du côté de l'histoire, du côté du cinéma, parfois avec un bleu obscur qui nous a un petit peu fait peur. Sylvie nous propose une petite bulle de bleu.
Oui, alors moi je vais vous lire un extrait de Bleuet de Maggie Nelson, qui est tombée amoureuse de la couleur bleue et qui a composé plus de 200 fragments sur le bleu. Donc je vous lis le fragment numéro 14.
Et pourquoi pas ?
Cela me plaît de dire que j'écris un livre sur le bleu sans le faire pour de bon. En général, les gens réagissent en vous racontant des histoires, en offrant des pistes de recherche ou des cadeaux, ce qui vous permet de jouer avec ces choses-là plutôt qu'avec des mots. Ces 10 dernières années, j'ai reçu des encres, des tubes de peinture, des cartes postales, des teintures, des bracelets, des cailloux, des pierres précieuses, des aquarelles, des pigments, des presse-papiers, des gobelets et des bonbons bleus. On m'a présenté un homme qui s'est fait remplacer une dent de devant par du lapis-lazuli uniquement parce qu'il aimait cette pierre. Et un autre qui voue un tel culte au bleu qu'il refuse de manger des aliments de cette couleur et ne fait pousser que des fleurs bleues et blanches dans son jardin autour de l'ancienne cathédrale bleue où il vit. J'ai rencontré le plus important cultivateur d'indigotier biologique au monde, ainsi qu'un homme qui chante Blue de Joni Mitchell dans un numéro de travestie à vous briser le cœur, et un troisième dont le visage ravagé pleure des larmes bleues. Et lui, je l'ai appelé le prince du bleu, ce qui est en fait son nom.
Merci. Et c'est vrai que c'est un recueil de bleu. Voilà, il y a des vraies petites perles. Voilà, très chouette. Alors, puisqu'on est dans la littérature, je voulais mettre un peu l'accent sur un homme, alors qui n'est pas forcément que littéraire, puisque c'est avant tout un peintre, mais pas que. À partir d'un livre de Teodoro Gilabert, qui est d'origine espagnole, et qui a fait un livre qui s'appelle Outre-mer 13-11. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose, mais en fait, Outre-mer 13-11, c'est le fameux bleu clin. Alors, ce bleu clin qu'on connaît tous, en fait, on a tous entendu parler plus ou moins du bleu clin, ça reste un peu mythique, et pourtant, c'est une vraie couleur, puisque cette couleur bleu clin, en fait, c'est la couleur IKB, International ou International Klein Blue. Voilà, alors ça c'est la grande modestie d'Yves Klein.
Officiel,
il y a un brevet et celui et son marchand de couleurs savent quelle est la composition du fameux bleu clin. Ici, bleu clin que vous ne pouvez jamais trouver en commerce. Ou
Intouchable.
Ouais. Et je l'ai découvert récemment, dans une exposition, il y a un musée absolument magnifique à Rodez, magnifique département de l'Aveyron, où il y a le musée Soulages. Donc le musée Soulages, c'est le noir, bien évidemment.
Ouais.
L'été dernier, il y avait une exposition secondaire, entre guillemets, qui était dédiée à Yves Klein. Et imaginez que vous rentrez dans cette exposition et on commence par une sorte de piscine, enfin d'espace qui doit faire, je ne sais pas, 20 mètres sur 10 ou quelque chose comme ça, avec du bleu clin. Et alors, on n'a qu'une envie quand on rentre, c'est de se plonger dans ce bleu clin, tellement c'est envoûtant, c'est beau, c'est un bleu qui est chaud, qui est chatoyant, qui est très loin des bleus de Sandra, je tiens à le préciser.
Enfin, tout de même, Bertrand, j'y pense, puisque tu parles du bleu clin. Mmh. Sur la Grande Bleue, c'est-à-dire à Nice, nous avons quand même deux merveilleux musées qu'il faut revisiter et que j'ai visité plein de fois, à plusieurs reprises. C'est le musée Matisse et le musée Chagall.
Ouais.
Et Matisse, à la fin de sa vie, comme vous le savez, qui ne pouvait plus tenir le pinceau, a fait de nombreux collages et donc de ces grands personnages fantastiques, ces grandes femmes avec des morceaux de papier bleu et Chagall, dans un registre peut-être plus spirituel, a représenté beaucoup le ciel, a beaucoup fait usage du bleu. Et donc voilà, ces deux merveilleux musées près de la Grande Bleue, avec deux peintres du bleu aussi, bleu que Klein, mais à voir ou à revoir.
Et je rajouterais aussi le petit musée aussi sur en bord de mer de Bonnard, où il y a aussi de très jolis bleus, de très jolis ciels bleus, voilà, de se peindre des couleurs également. Donc c'était aussi pour mettre un petit peu à l'honneur ce personnage que j'ai découvert dans ce livre Outre-mer 13-11 de Théodore Roger-Labert, où on voit un personnage. Alors Yves Klein est décédé en 1962, il est décédé très jeune, mais après une vie absolument dingue, donc c'est un vrai petit génie, qui a été judoka. C'est lui qui a eu une carrière et il a été gradé en judo au Japon, seul français, seul occidental à avoir atteint ce niveau. Et quand il rentre en France, et il est à la fois peintre, il est à la fois écrivain, et il va lancer ces fameux monochromes bleus qui vont connaître d'abord en Italie puis après en France un succès assez phénoménal. Et donc vous voyez, il est décédé il y a plus de 50 ans, et ça reste encore un petit côté un peu magique, ce fameux bleu Klein, qui est un peu inexplicable, mais voilà. Essayez de croiser la route de d'Yves Klein et de ce fameux bleu Klein, parce que c'est, je trouve, un bleu merveilleux. Et quand on parle de bleu, j'avais envie que vraiment, maintenant que vous êtes levé dans votre fauteuil, que vous avez plein d'images bleues dans la tête, douces ou moins douces, de partir avec un homme qui s'appelle Johann Strauss, et bien sûr, le beau Danube bleu. Le beau Danube bleu, on aurait presque envie de valser. Alors, pour conclure cette émission, comme à chaque fois, il y a une petite chronique de la librairie des Marais. Ce début 2020, il y a toujours évidemment ce qu'on appelle la rentrée littéraire d'hiver. Alors, j'ai choisi juste trois coups de cœur, trois beaux textes, trois textes un peu surprenants. Je voulais commencer avec un premier texte qui s'appelle « Harpo ». C'est écrit par Fabio Viscogliosi chez Actes Sud. C'est un texte assez court, totalement jubilatoire, et c'est autour de Harpo Marx. Alors, qui était Harpo Marx? C'était l'un des Marx Brothers. Et ce Marx Brothers, qui était venu en solo faire une tournée en Union soviétique dans les années 30, va pour reprendre son bateau au Havre en France, et en fait au dernier moment décide de se faire la belle et de partir sur les routes de France. Et là commence une aventure qui est assez géniale. C'est, voilà, on passe un super bon moment. N'hésitez pas. Alors moi, du coup, j'ai même revu les films des Marx Brothers pour se replonger dans cet univers que je ne connaissais pas. Mais rien que la lecture de Harpo, très sympa. Un autre livre chez Lattès, de Nina Bouraoui, qui est Otage. Alors Nina Bouraoui a déjà beaucoup écrit, c'est une auteure de la sensibilité, une auteure de la psychologie. Elle fait des livres très ciselés, on va droit au sentiment. Et là, avec Otage, elle fait un livre qui était à la base une pièce de théâtre, un livre qui est fort, qui est beau dans l'écriture, autour d'une femme. Une femme qui dit toujours oui, qui dit oui, qui oui à son patron, qui est sympa avec son mari. Et un jour, son mari part. Ben voilà, il part, tant pis, c'est la vie. Et puis après, le patron commence à lui demander des choses pas forcément très sympathiques, d'aller espionner les collègues, etc. Et du coup, à un moment donné, elle pète un plomb. C'est très très bien fait. Si vous n'avez jamais lu de Nina Bouraoui, allez-y, parce que vraiment c'est une écriture qui nous tient. Et pour terminer, une bande dessinée très drôle chez Sarbacane, qui est un auteur de BD entre autres, de Daniel Blancou. C'est un auteur de BD qui un peu un loser quand même, et qui lors d'une dédicace, en fait, une mère lui apporte le travail de son ado. Parce que, bon, voilà, elle voudrait savoir ce qu'il en est, et lui dit ouais, ok, je vais regarder, etc., vu qu'il a personne dans les dédicaces. Et en fait, c'est absolument génial, c'est extraordinaire, et il décide de se l'approprier et de publier cette BD en son nom. Le problème, c'est que ça marche du feu de Dieu et qu'il va falloir faire une suite. Et là, il est très embêté parce que l'ado n'a plus du tout envie de faire de BD. Donc c'est drôle, voilà, ça part un petit peu en vrille et c'est savoureux. Daniel Blancou a fait le scénario et l'illustration, un auteur de BD en trop, chez Sarbacane. Trois coups de cœur pour commencer cette année 2020 en beauté. Il est temps de conclure cette émission. Un petit mot en bleu, mesdames, ou pas?
Un mot très court de Pablo Picasso. Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge.
Merci Sandra. Sylvie?
Eh bien moi, je n'ai pas de mot de Picasso, mais je vous souhaite de rêver en bleu cette nuit.
Ah ouais, super, ça, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Vagabondage, que vous pouvez retrouver le samedi en rediffusion de 14h à 15h, que vous pouvez retrouver en podcast sur www.radio-calade.fr, et bonne soirée en bleu. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Silver hair, a ragged shirt, and baggy pants.